lever tous les micros.
Salut.
Salut.
Mais Pâques, c'était pas la semaine dernière ?
C'est pas grave.
Ouais.
Enfin, oui, d'ailleurs, on est quel jour ?
On est le 20 ?
Non.
Joyeuse Pâques.
Le 20 avril ? Un truc comme ça.
Lundi.
Ouais.
Et il est midi 25.
27 maintenant.
Ah merde, 27.
Et on vous rappelle que à partir d'hier, on est en direct à midi et demi, enfin entre midi et midi et demi, jusqu'à 14h à peu près. Et que vous pouvez toujours nous appeler au 07 53 15 33 68 ou nous envoyer un message à... Enfin, message en son, des nouvelles, ce que vous voulez, au 39-9@rise.net.
Et on ne dit pas à partir d'hier, on saura.
si tu veux. Bah, hier est passé, alors du coup j'avais du mal à utiliser le futur. Mais... Okay. D'ailleurs, le futur, c'est un vaste sujet, quoi, ouais. En ce moment.
Et d'ailleurs, dans le futur proche, on va écouter un truc, non ? Tu voulais nous dire quelque chose, Bob ?
Ouais, déjà, on a écouté John Hassell et Brian Eno.
Donc ça, c'est le futur antérieur.
La longue, c'était vachement chouette. Hein. Ça s'appelait Charm. Et après, c'était Kraftwerk, Neon Light. Et maintenant, c'est Big Blood. Voilà, bisous.
Il n'y a pas d'épidémie. Restez chez vous. Le gouvernement a besoin de changer les piles des oiseaux en toute discrétion. Il n'y a pas d'épidémie, pas d'épidémie, pas d'épidémie.
Salut, salut.
Salut.
Salut. Bon matin.
Et bienvenue à la radio. On commence par une nouvelle. Une petite nouvelle de Brotigan dans son recueil qui s'appelle Sucre de pastèque. Ah non, c'est La pêche à la truite en Amérique, mais c'est dans le même bouquin, page 152. Et ça s'appelle Red Lip, et du coup c'était précédé d'autres textes, mais les premiers mots c'est ça. 17 ans plus tard, je me suis assis sur un rocher. Il était sous un arbre, près d'une cabane. Sur la porte, il y avait une affiche de shérif clouée comme une couronne mortuaire. Entrée interdite. 4/17 de haïku. Bien des rivières avaient coulé au cours de ces 17 années, et des milliers de truites avaient filé. Et maintenant, à côté de la grande route et de l'affiche du shérif, il y avait une autre rivière, la Klamas. Et j'essayais d'aller 35 miles en aval à Steelhead, où je vivais. C'était très simple. Personne ne s'arrêterait pour me prendre, même avec mon attirail de pêche. D'habitude, les gens s'arrêtent pour prendre les pêcheurs. Il a fallu que j'attende 3 heures avant que quelqu'un s'arrête. Le soleil était comme une énorme pièce de 50 cents sur laquelle quelqu'un aurait versé du pétrole et y aurait mis le feu avec une allumette en disant « Tiens-moi ça pendant que je vais acheter le journal ». Et il aurait posé la pièce dans ma main et il ne serait jamais revenu. J'avais marché pendant des milles et des milles, jusqu'à ce rocher sous l'arbre où je m'étais assis. Chaque fois qu'une voiture passait, toutes les 10 minutes environ, je me levais et je faisais signe du pouce, comme si ça avait été un régime de bananes, et puis je me rasseyais sur mon rocher. La vieille cabane avait un toit en zinc rougi par les années, comme un chapeau qu'on aurait gardé sous la guillotine. Un des angles de ce toit était arraché, et le vent chaud qui soufflait sur la rivière le faisait battre. Une voiture passa. Deux vieux. La voiture fit une telle embardée qu'elle faillit bien tomber dans la rivière. Il ne devait pas voir beaucoup de campeurs dans le coin. La voiture a pris le virage. Ils me regardaient tous les deux. Je n'avais rien d'autre à faire, alors j'ai attrapé des mouches à saumon avec mon épuisette. Je m'étais inventé un jeu. Ça se passait comme ça. Je n'avais pas le droit de les pourchasser. Elles devaient voler jusqu'à moi. J'en ai attrapé 6. Plus loin que la cabane, il y avait des cabinets, dont la porte avait sans doute été violemment ouverte. L'intérieur de ces cabinets se déchiffrait, comme un visage humain, et semblait dire « Le vieux qui m'a bâti a chié ici 9745 fois, et maintenant qu'il est mort, je ne veux pas que quelqu'un me touche. C'était un brave type. Il m'a construit avec amour. Fichez-moi la paix. Je suis un monument à la mémoire de ce brave cul maintenant disparu. C'est là tout le mystère. C'est pour ça que la porte est ouverte. Si vous avez envie de chier, vous n'avez qu'à aller dans les buissons, comme les cerfs. » J'ai dit au cabinet « Va te faire foutre. Ce que je veux, c'est descendre cette rivière. » Thank you.
Et hier, j'ai eu une amie de Paris qui est confinée à Paris. Je ne sais pas exactement où, mais qui me racontait un petit peu le paysage de là-bas quand elle sortait de chez elle. Et elle me disait qu'en en fait, il y avait beaucoup de corbeaux actuellement, de plus en plus, que les détritus étaient plus en place, moins de ramassage visiblement, pas mal. Donc beaucoup de corbeaux, des gens qui font la manche parce qu'ils n'ont plus d'argent et tout ça. Et puis, j'ai bien aimé l'image des corbeaux. Et ça m'a rappelé un article que j'avais lu dans Nunatak, qui est une revue d'histoire, de culture et de lutte des montagnes. Et c'est un article sur les choucas des tours, une envolée avec les corvidés. Et j'ai envie de vous le lire. Petite rencontre. Alors je vous dis aussi la petite intro de Nunatak, qui dit... Contribuer à se réapproprier des connaissances sur la faune, la flore ou sur des pratiques et savoir-faire qui leur sont liées fait partie des préoccupations de celles et ceux qui animent la revue Nunatak. Donc, le texte qui suit participe en nous faisant découvrir à travers divers aspects un bipède bien étonnant, non emblématique et souvent méprisé, le chouka des tours. Devenu à partir du Moyen-Âge et l'avènement du christianisme oiseau de malheur ou vedette du bestiaire du diable, il a longtemps été classé comme nuisible, au même titre que les autres corvidés à plumes noires. Et pourtant... Bon, voilà. Suite à quelques quiproquos sur le sujet de ce papier, précisons qu'on parlera bien ici d'un oiseau agité de la famille des corvidés, et que la mafia La Jaunie fera l'objet d'une enquête d'investigation ultérieurement. Donc, on en déduit qu'il s'agit des cachous, La Jaunie, et on n'a pas beaucoup d'informations sur ce sujet. À suivre. Pour poser un premier tableau d'ensemble, rappelons que les membres européens qui composent cette turbulente section d'oiseaux sont, outre le chouka, le casse-noix, le crave, le geai, le corbeau freux, le grand corbeau, les corneilles noires et mantelées, la pie et le clochard. Les corvidés sortent clairement du rang chez les passereaux, dont ils partagent l'ordre de classification, notamment parce qu'ils ont été plutôt bien armés pour la vie. Ils sont costauds, dotés de becs puissants et clairement opportunistes au terme d'alimentation. Une autre de leurs particularités est leur longévité exceptionnelle, pouvant les mener jusqu'à l'âge honorable de 15 ans. Capables pour la plupart d'utiliser des outils ou de comportements sociaux complexes, ils sont pourvus d'une intelligence et d'une mémoire qui ne cessent de remettre en cause les évidences scientifiques sur la capacité cognitive animale. Passionnants par leur vivacité, leur capacité et leur sociabilité, ils le sont aussi par leur histoire commune avec l'homme. Leurs caractéristiques complexes ont nourri au fil de l'eau un imaginaire ambivalent chez les humains. Le corbeau, terme utilisé populairement pour désigner tous les corvidés noirs de plumes, chouka, corneille, corbeau. Donc à Paris, par exemple, c'est des corbeaux, peut-être, c'est peut-être des corneilles, c'est peut-être des choukas. Le corbeau a une image plutôt positive dans les mythologies européennes. Chez les Grecs comme chez les Slaves et les Germains, l'animal était associé à l'omniscience, à l'observateur ou encore à une présence quotidienne amicale. Odin, chef du panthéon germano-scandinave, est représenté accompagné de deux corbeaux, l'un symbolisant la mémoire et l'autre l'intelligence. Il en va de même pour Lug, dieu celte. Dit Lug ou Lug ? Dieu celte. L'avènement du christianisme médiéval dans nos campagnes marque le début d'une période difficile pour les corvus. L'Église entame une lutte sérieuse pour casser la vénération dont le corbeau fait encore l'objet dans les cultures païens, dans les cultes païens du Moyen-Âge. Il devient la vedette du bestiaire du diable, oiseau de malheur, pilleur de champs. Mangeur de cadavres, ennemi de l'Église et des paysans, les corbeaux sont chassés, piégés, détruits, parce que ça fait du bien. Longtemps classé comme nuisible, chassé et empoisonné, le chouka est depuis 1989 une espèce protégée. Le constat d'une baisse importante des effectifs lui a permis de quitter juridiquement le statut d'ennemi public des récoltes et de l'espèce humaine. Au-delà de sa destruction directe, les causes recensées de cette perte de population sont diverses et communes. Industrialisation de l'agriculture, exploitation intensive de ces milieux de prédilection, diminution des emplacements de nidification, dommages collatéraux de la lutte contre d'autres nuisibles à plumes tels que le pigeon bisé. Aujourd'hui, la population paraît s'être stabilisée, ce qui est plutôt une chouette nouvelle alors que le nombre de passereaux ne cesse de chuter. Ce qui n'empêche cependant pas les mesures dérogatoires d'abattage, façon Baltrap, pour faire rempart aux meutes de choucas qui s'abattent sur les champs, ou de préserver les riantes cités de la dégradation par les fientes. Qu'est-ce qu'un chouca ? Le chouca des Tours est connu sous le petit nom latin de Corvus monedula, ce qui, soyons honnêtes, ne sert pas souvent. C'est un piaf vif, toujours en mouvement, animé d'une curiosité extrême, tempérée par de la méfiance et une grande ténacité. Il y en a quasiment partout en France, sauf dans 6 départements du sud-ouest où il est absent ou fort rare. Autre limite géographique, on le trouve difficilement au-delà de 1200 mètres d'altitude. Pour le reste, il est capable de s'installer en ville, comme dans les plaines ou les villages, dès lors qu'il peut y trouver falaises, ruines, tours, châteaux, allées de grands arbres ou forêts pour nicher. C'est donc l'un des corvidés que l'on croise le plus fréquemment. Il n'y a pratiquement aucun village qui n'accueille pas une de ces colonies de plumitifs. Et pour autant, on le connaît et l'identifie souvent difficilement, l'associant globalement aux plumes noires des corbeaux et corneilles. Le chouca n'est pas vraiment un oiseau qui fait dans les esbroufes visuelles. La lueur est trapue, le plumage noir à reflets pourpre ou bleu, sobre, il est identique pour les deux sexes. Pattes et bec sont également noirs. La tête est soulignée par une demi-lune argentée sur les côtés et l'arrière du cou. Son œil blanc-bleu clair est particulièrement marqué et lui donne un air tantôt malin, tantôt éberlué. C'est un corvidé de petite taille, similaire à celle d'un pigeon. Une trentaine de centimètres du bec à la queue pour une envergure toute ailée déployée de 67 cm. Comme tous les oiseaux, c'est un poids-plume, l'animal pesant entre 193 et 257 grammes. Pour le différencier visuellement des autres ailes noires, il faut donc prendre en compte la taille bien plus petite que celle des corneilles ou des freux, avec lesquels il aime à sautiller dans les champs, ainsi que la couleur de l'œil. Il est fréquent de le confondre avec le chocard, corvidé d'une taille relativement similaire, mais le bec de ce fier cascadeur des montagnes est d'un jaune bien net. Si la sobriété est de mise pour le plumage, il n'en va pas de même pour le ramage. La voix du chouca est sonore, criarde, rauque. Elle porte. Il aime à l'utiliser avec enthousiasme, notamment pour rester en contact permanent avec son partenaire et son groupe. Si l'idée de braillard fatiguant te traverse l'esprit à la rencontre d'une troupe de corvidés perchés sur les cheminées ou dans les clochers, c'est qu'il s'agit d'une identification de chouca réussie. Au-delà des cris de lien au groupe tchac-tchac, clair et bref, j'adore toujours comment on nous décrit par lettrage humain les sons des oiseaux. Donc au-delà des cris de lien du groupe tchic-tchac, clair et bref, Lorenz a également identifié certaines variations aux significations précises. Kia ou kia ou kia, je sais pas. Pour vol avec moi, yup pour la défense collective des nids ou kiao pour allez rentrons. Bon, concernant ce dernier cri, Lorenz le remarque à l'hiver 1929. Cela fait alors 2 ans qu'il favorise l'implantation d'une colonie de chouka sur sa maison d'Altenberg, ayant lui-même installé en liberté sur les lieux en première dizaine de très jeunes oiseaux. Ça va, je continue, c'est pas trop long, c'est entendable. Allez. Donc, la colonie est alors aux prémices de son développement. Je vais prendre la phrase avant. Cela fait alors 2 ans qu'il favorise l'implantation d'une colonie de choucas sur sa maison d'Altenberg, ayant lui-même installé en liberté sur les lieux une première dizaine de très jeunes oiseaux. La colonie est alors aux prémices de son développement, composée de quelques oiseaux adultes et des jeunes de l'année. Il relate le débarquement d'une troupe massive de freux et choucas migrateurs dans le champ voisin un jour d'hiver. Les jeunes choucas de sa colonie ne résistent pas à l'attrait du groupe et de l'agitation, et Lorenz assiste, impuissant, à leur disparition dans la nuée d'ailes noires, convaincu que ses plus jeunes sujets d'études suivront la migration. Il voit alors 2 des choucas les plus anciens mettre en place un manège similaire, consistant à repérer dans le groupe un jeune de la colonie et le survoler en essayant de l'entraîner dans leur vol vers Altenberg à grand effort de « Kiao ». Les 2 oiseaux finirent par ramener tout le monde au bercail, permettant à Lorenz d'étudier les choucas chez lui pendant plus de 24 ans et de publier le très passionnant, bien que daté, « Les compagnons intemporels ». A priori, ces cris ne peuvent pas s'apparenter à des ordres consciemment donnés, mais à des expressions d'humeur pouvant contaminer les autres oiseaux, l'équivalent de notre bâillement par exemple. Le chouka est un oiseau marcheur qui se déplace par bonds et cherche sa nourriture à terre. Omnivore, l'occasion fait le larron et son régime alimentaire est donc particulièrement varié. Insectes et larves, escargots, limaces, œufs, jeunes oiseaux, petits mammifères, graines, fruits, patates et nombreux détritus. Sans oublier l'intégralité des échalotes du Finistère, d'après la presse d'investigation bretonne. Il maintient l'objet de sa convoitise au sol avec ses doigts pour le travailler au bec, avec lequel il déchire, perce, découpe, pince, arrache et déterre. On mésestime la capacité d'un bec. Les aliments qui ne sont pas mangés sur place sont souvent emportés dans une poche, placée sous la langue, afin d'être dissimulés ailleurs. On ne détermine pas bien si les cachettes sont retrouvées grâce à une super mémoire ou si le furetage incessant de l'animal l'amène à retomber dessus. Cet oiseau, comme tous les corvidés, présente une certaine passion pour les objets brillants ou sortant de l'ordinaire qu'il aime à ramasser ou stocker et un attrait certain pour le jeu notamment en vol. Deux points. Ah oui, tournoiement plané, acrobatie, looping, chute vertigineuse ou vol nerveux à plusieurs. Je continue. Des choucas. Le besoin social prend chez les corvidés des formes bien plus accusées que chez les autres oiseaux, tout particulièrement chez les choucas. Le chouca n'est jamais seul, il est finalement un pluriel. C'est donc en colonie pouvant rassembler 5 à 50 couples qui s'installent. Leur nid dessine au printemps une zone précise, animée des allées et venues par groupe, fusant d'alarmes collectives et furieuses, secouées de disputes territoriales pour l'obtention des meilleurs nids auxquels adorent participer les voisins. Et comme on n'a jamais assez de copains, il est à noter qu'au-delà de l'association interchouka, l'animal prend plaisir à la fréquentation d'autres corvidés, comme les freux, s'associant pour pâturer les champs ou passer la nuit dans un bois en hiver. Il y a une petite note qui dit « et ruiner les campagnes », rappelons-le. Cavernicole, les choucas sont susceptibles de s'accommoder d'une grande diversité de sites de nidification. Les colonies s'installent aussi bien dans des rochers, falaises, carrières, que sur des édifices humains, églises, ruines, diverses et surtout cheminées. Des choucas visant la destruction de l'espèce humaine par le biais du monoxyde de carbone. Alors ça, je n'ai pas très bien compris, mais il y a aussi une petite note qui dit « ouvrons les guillemets. Ce sont les choucas ou nos récoltes, les choucas ou la sécurité de nos maisons. » Et c'est un extrait, pour une fois fandard, d'un site d'extrême droite identitaire breton se présentant comme média indépendant. La plupart des couples s'apparient au printemps qui suit leur naissance et ne se reproduiront qu'au printemps suivant. La formation des duos se déroule selon un processus complexe de séduction et d'attention. Bataillant comme les autres choucas, le jeune mâle cherche à s'approprier un creux pour signifier son intérêt à une femelle déterminée. peu importe, à ce stade, que la taille du trou permette d'accueillir réellement un nid. N'importe quelle cavité trop étroite suffira pour débuter la cérémonie du tsik. La cérémonie du tsik. Dans la mesure où il s'agit d'une scène de théâtre et non pas de la future baraque du couple. Une fois le trou obtenu, l'oiseau s'installe fièrement devant et tsik, inlassablement, à l'attention de la jeune chouka. Celle-ci, après tout, tout un manège de regards en coin, finira au choix par s'envoler loin du raseur ou signifier son intérêt réciproque par une courbette frémissante. C'est une parade symbolique qui ne conduira que bien plus tard à un accouplement. Elle marque généralement le début immédiat d'une communauté offensive et défensive à vie, où chacun prendra furieusement le parti de l'autre. Les marques d'attention entre les deux oiseaux dureront des années. Lui, lui bourrant le bec d'offrandes alimentaires, elle, lui lissant les plumes du cou pour un gominage de qualité. Entre mars et avril, les cavités ou cheminées élues par les couples sont bouchées par tout ce qui leur tombe sous le bec, crottins, branchettes, terre, etc., jusqu'à ce que le nid soit accessible. Une couche plus molle de crin, foin ou autre plume sera rapidement agencée pour finir l'ouvrage. Le chouka signant plutôt dans la catégorie gros œuvre que stuc de finition. Le nid accueille fin avril 5 œufs, couvés par la femelle pendant une vingtaine de jours. Les jeunes quittent les lieux après avoir été nourris par le duo de parents vers 30-35 jours. Ils stationnent alors autour des nids, puis seront conduits au champ par la troupe pour apprendre à saccager nos récoltes. À l'automne, toute la tribu, couple, jeunes intégrés à la colonie, individus isolés, vagabondera ensemble, désertant plus ou moins la colonie pour rallier des dortoirs ponctuels, des grands arbres donc. On arrive bientôt à la fin. À la différence de pas mal de piafs, les jeunes choukas appréhenderont des dangers au travers d'un mélange d'expériences individuelles et de transmissions collectives. La plupart des oiseaux, pies, canards, rouge-gorge, oies, etc., la plupart des oiseaux prennent la fuite devant les prédateurs, même en ayant été élevés par des hommes et sans aucune expérience de l'ennemi. Ce n'est pas le cas des petits choukas. Le danger doit leur être enseigné, chaque colonie transmettant par ses réactions brillantes et collectives la connaissance de ce qui doit être redouté. Cette particularité apparut évidente à Lorenz lorsqu'il commença à essayer d'installer de très jeunes choukas en liberté à Altenberg, sa troupe d'oiseaux se montrant plus intéressée qu'effrayée par les greffiers de la maison. Les chats leur portant un intérêt tout aussi réciproque, le début du projet nécessita un renouvellement régulier des pionniers de la colonie. Une seule réaction semble exister collectivement chez tous les choukas du monde de manière innée, celle qui consiste en l'agression violente de tout être vivant portant quelque chose de noir et pendant. Les choukas se mettent alors à brailler de manière stridente, toutes ailes écartées, et à attaquer le prédateur. Enfin, quelques remarques concernant le fonctionnement de la vie collective. La colonie est construite selon une structure sociale fermement conservatrice. Les couples dominent les individus isolés, les mâles, les femelles. Lorsque les duos se forment, les femelles prennent automatiquement un rang hiérarchique de leurs compagnons. Les conflits communs ne concernent que les choukas de rang proche, despotes contre prétendants au trône, n'amenant qu'à de petites modifications de la structure du groupe. Lorenz écrit n'avoir vu qu'une fois au cours de plus de 20 ans d'observation un, on ouvrait les guillemets, despote détrôné par un jeune révolutionnaire. Fermez les guillemets. Dans le cas de ce que les choukas semblent considérer comme des conflits sérieux, c'est-à-dire des conflits portant sur l'obtention des meilleurs nids, l'ensemble de la colonie, et tout particulièrement les choukas de rang élevé, se permettent d'intervenir, prenant parti contre les plus puissants des querelleurs. Bref, les choukas, c'est choukars. Kiffez-les. C'est signé de Bobby.